Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Christophe Paco. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour RTL Soir. Face à la quatrième vague de Covid, l'Agence Régionale de Santé de Corse a activé il y a quelques minutes le plan blanc régional afin d'ouvrir de nouvelles capacités d'hospitalisation, à Bastia notamment, où le taux d'occupation dépasse les 79%. Plan blanc qui vise à organiser des déprogrammations d'opérations tout en privilégiant les urgences bien sûr, ou encore la cancérologie. On en reparle dans un instant, dossier complet dès le début de ce journal. D'un autre côté, l'épidémie de Covid recule, elle, dans pas moins de 28 départements sur les 3 derniers jours. C'est le cas notamment là où la hausse était pourtant la plus flagrante au début du mois de juillet, dans les Pyrénées-Orientales, en Gironde, en Charente-Maritime ou encore dans les Landes et à Paris. Là aussi, invité à venir, 18h20, l'infectiologue Benjamin Davido qui sera avec nous dans RTL Soir. Manifestation ce matin à Revin, dans les Ardennes, pour dénoncer l'abandon du projet de relocalisation des cycles Mercier. Le repreneur, visiblement, était trop fragile. Une 24e médaille pour la délégation tricolore aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'équipe de France, messieurs de vitesse sur piste, a décroché la médaille de bronze en battant l'Australie dans le match de classement. Le volet, le grand sourire, une qualification historique. On en perd nos mots aujourd'hui quand même pour nos bleus du volet. Fantastique face à la Pologne, qualifiée pour la première fois de leur histoire en demi-finale. Basket, ça passe aussi, une demi. C'était pas arrivé depuis l'an 2000. Et puis pour le hand, c'est presque une habitude. C'est encore passé, donc demi-finale également pour les messieurs du hand. En revanche, ça craque pour Renaud Lavillenie à la perche, blessé, et il termine simplement 8 de l'épreuve. Puis il y a du foot ce soir, le grand retour de la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, troisième tour préliminaire. Monaco joue sa place parmi l'élite du foot européen à Prague face au Sparta. 18h30, on refera les Jeux, n'oubliez pas, grand rendez-vous évidemment avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Ce sera juste après votre plateau télé avec Laurent Marsic. Et puis le point météo que l'on attend tous, je ne vous le cache pas, avec une certaine impatience, c'est avec vous Claire Delorme. Bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Alors Claire, question très simple, on a du temps pour l'expliquer. Est-ce qu'on aura un léger mieux ou est-ce que ça va encore se dégrader? Vous écoutez attentivement.
Ça va plutôt se dégrader car à partir de cette nuit, il va arriver une perturbation active qui va balayer toute la façade atlantique en se dirigeant lentement vers le centre-est. Donc elle apportera des pluies qui pourront être localement soutenues, accompagnées d'orages, que ce soit des Pyrénées en remontant vers le massif central et puis dans les Alpes. Et cela va même gagner d'ailleurs l'extrême sud-est du pays. Et puis par contre, dans l'après-midi, on va avoir davantage d'éclaircies justement sous l'effet de la tramontane et du mistral. Et donc, ça sera beaucoup plus calme en revanche pour un tiers nord du pays, avec beaucoup de nuages, quelques éclaircies, mais aussi quelques averses qui ne seront pas à exclure pour les températures 11 à 16 degrés en matinée. Et dans l'après-midi, encore 19 à 23 degrés, largement en dessous des normales de saison.
Oui, très, très largement en dessous des normales. On a le petit pull de temps en temps aujourd'hui quand on prend la moto, même la voiture. On vous retrouve à 18h30, quart de l'heure. Merci à vous.
RTL Soir.
N'est donc pas logé à la même enseigne, alors que dans 28 départements, le taux d'incidence du Covid est en baisse. Dans d'autres, il est toujours très élevé, voire en augmentation certaine, et les hôpitaux peinent à recevoir les nouvelles personnes contaminées. C'est le cas ce soir en Corse. Bonsoir à vous Sébastien Rouxel.
Bonsoir.
Où là-bas, sur l'île de Beauté, la situation est préoccupante.
Oui, les indicateurs ne sont vraiment pas bons. Ils se dégradent à toute vitesse depuis quelques semaines. Le taux d'incidence d'abord sur l'île, il s'élève à 647 cas pour 100 000 habitants contre 40 seulement début juillet. Chez les jeunes, il explose près de 2000 pour 100 000 habitants. C'est en Haute-Corse que l'épidémie flambe le plus, avec un taux d'incidence un peu plus élevé qu'en Guadeloupe, qui, je vous le rappelle, va se reconfiner dès demain pour 3 semaines. Ce qui inquiète le plus les autorités, ce sont les admissions à l'hôpital. Elles aussi en forte augmentation. Les services de soins intensifs sont au bord de la saturation. Exemple à Bastia, 10 malades pris en charge pour 11 lits disponibles. C'est pour cette raison que l'Agence régionale de santé vient de déclencher le plan blanc sur toute l'île.
Alors un plan blanc, on va l'expliquer, on va le rappeler. Qu'est-ce que c'est exactement, Sébastien?
Eh bien, c'est un dispositif qui permet aux hôpitaux de mobiliser tous les moyens disponibles pour gérer l'afflux de patients, rappeler des soignants en congé, déprogrammer des opérations. Dans le même temps, des mesures de freinage ont déjà été prises. Retour du masque dans les zones les plus fréquentées, fermeture des bars et restaurants à minuit en Haute-Corse. Cela va-t-il suffire? De nouvelles restrictions sont à l'étude, un couvre-feu peut-être. Les deux préfets de l'île devaient faire des annonces cet après-midi alors que la saison touristique bat son plein. Leur conférence de presse a finalement été reportée.
On peut le comprendre, réticence au niveau économique, c'est tout le problème de façon de ce Covid depuis maintenant son arrivée en France. Au moment où à Wuhan, où a eu lieu le premier foyer de contamination, aujourd'hui on va revacciner, on va rapatrier tous les gens, on va compter ces gens. Et on on va voir s'il y a des personnes qui sont atteintes du Covid. On sait qu'il y a eu 3 cas, donc sur les 11 millions d'habitants, il y a du travail, mais tout le monde va être contrôlé. Voilà, c'est l'information du soir. On rappelle donc la Corse, on en reparlera à 19h avec notre invité tout à l'heure, avec Alexandre de Saint-Aignan. La Corse qui déclenche le plan blanc, pour l'instant, rumeur de couvre-feu. Et alors qu'en Guadeloupe, on le rappelle, c'est un confinement qui arrive pour 3 semaines. On va se rendre sur place, sans plus tarder, en Corse du Sud même, à Ajaccio, où Laetitia Giannichini, vous êtes allée à la rencontre des habitants.
Dans cette brasserie du centre-ville d'Ajaccio, malgré les chiffres de l'épidémie, on ne veut pas entendre parler de nouvelles restrictions.
Concrètement, si y a un couvre-feu, on va mal le prendre parce que du coup, on a suivi toutes les règles, on s'est tous fait vacciner, on respecte les règles sanitaires, les règles d'hygiène. Et du coup, s'il y a un recouvre-feu, ça veut dire qu'on revient où on a été il y a 8 mois. Ce serait un peu injuste pour nous, quoi.
Les restaurateurs ne sont d'ailleurs pas les seuls à craindre pour la saison.
Enfin, c'est pas comme en prison, mais on pourra pas vivre notre vie comme on le faisait avant. Ce sera toujours des restrictions, toujours un pass PCR, toujours des contraintes. Ben, au final, on va passer un été gâché, quoi.
Et les chiffres de l'épidémie n'annoncent rien de bon. Avec 650 cas pour 100 000 habitants, la Corse est la région de France métropolitaine la plus touchée par le virus.
Ajaccio pour RTL, Laetitia Giannichini.
RTL à Tokyo.
Le grand sourire en sport collectif pour les Bleus du basket, du hand et du volley ce soir. Mardi, historique pour nos volleyeurs qui l'ont emporté face à une des meilleures nations. C'est la Pologne, double championne du monde en titre. Match en 5 manches jusqu'au bout de la nuit nippone. Les volleyeurs décrochent donc leur première demi-finale olympique de leur magnifique histoire. Histoire qui continue en marche avec l'équipe de Monsieur Tilly. Et puis le basket messieurs qui, comme en l'an 2000, accède aux demi-finales après un très beau succès à la arraché sur la fin face à l'Italie, 84-75. Quant à nos handballeurs, comme toujours, ils sont au rendez-vous. Après leur succès ce matin face au Bahreïn, ils sont donc eux aussi en demi-finale, mais ce pour la 4e fois consécutive. Record à ce niveau de la compétition, c'est quand même assez formidable. Et puis malgré une belle médaille de bronze, on va y revenir en cyclisme sur piste chez les hommes. Quelques grosses déceptions, à l'image de la déception de Renaud Lavilloni, le perchiste sacré, on s'en souvient tous, en 2012 à Londres, argenté en 2016, derrière Armand Duplantis. Il termine ce matin, en tout cas derrière, son grand ami, son grand rival, Armand Mondo, comme on le surnomme Duplantis. Isabelle Langer, bonsoir à vous.
Bonsoir Christophe.
Oui, Lavilloni blessé qui termine seulement 8e du concours.
Ouais, terrible scénario pour Renaud Lavilloni. Lui qui souffrait déjà d'une entorse à la cheville gauche, il s'est blessé au talon droit à l'échauffement en retombant lourdement directement sur le tartan de la piste, en dehors du tapis de réception. Malgré la souffrance, le champion a quand même tenu à disputer le concours. Écoutez-le, il est au micro de France Télévisions.
J'ai fait au mental, j'ai vraiment rien voulu lâcher et après c'est trop compliqué, je pouvais pas courir correctement quoi. Donc je vais rester sur le positif, que j'ai essayé de surmonter la douleur au plus possible, mais voilà, hein, les jeux c'est les jeux et on peut pas faire un podium comme ça en claquant des doigts. Et donc j'ai rien lâché et je vais rentrer motivé à bloc pour déjà d'une me soigner. Puis voilà, vous pouvez compter sur moi sur les semaines à venir, parce qu'il y a encore j'espère quelques meetings pour moi et bien surtout sur les prochains jeux quoi.
Et surtout, Christophe, c'est un extraterrestre qui a été sacré champion olympique. Mundo Duplantis, le Suédois de 21 ans, a survolé le concours au sens propre comme au sens figuré. C'était tellement beau, comme s'il était en apesanteur. Il lui a suffi de passer 6m02 pour devenir le nouveau dieu de l'Olympe à la perche. Surtout, il a tenté de battre son propre record du monde. Il a fait monter la barre d'un centimètre à 6m19. Malheureusement, émoussé par la compétition, il n'a pas réussi à atteindre le 7e ciel.
Ah, ouais, cet 7e ciel à 6m19, hein, Isabelle Langer. Oui, ça se mérite aussi. Mais la prochaine fois, peut-être il est encore tout jeune, Mundo Duplantis. Merci à vous Isabelle et belle nuit, évidemment. Merci. Là-bas à Tokyo. Déception encore en athlétisme, cette fois pour Alexandra Tavernier. Au lancer du marteau, elle termine seulement 4e, la plus mauvaise place au pied du podium. Et je vous le disais, une nouvelle médaille pour nos Bleus, cette fois c'est en cyclisme sur piste, c'est la 24e médaille, chapeau. L'équipe de France, messieurs de vitesse, donc a décroché la médaille de bronze en battant l'Australie dans le match de poule, le match de classement ce midi. Satisfaction de Sébastien Vigier, c'est l'un de nos grands médaillés.
Sur le podium, c'est là que j'ai commencé à réaliser en fait que c'était vraiment les Jeux et que c'était pas une compétition comme les autres. Bah déjà en descendant de la piste, on a vu tout le staff les larmes aux yeux, j'ai vu mes coéquipiers les larmes aux yeux. C'est là que j'ai réalisé que c'était qu'on avait fait quelque chose de grand et j'étais très très content quoi. C'est des jeux réussis parce qu'on a une médaille. Après, on espère aussi pouvoir enchaîner grâce à ça sur les épreuves individuelles, que ça nous libérera et qu'on reviendra avec d'autres médailles.
On espère tous, en tout cas. Mais bravo, bravo à cette jeune équipe de cyclisme sur piste. Au total, ce soir, la France compte 24 médailles et se classe 8e pour l'instant au classement, justement, complet. L'escalade pour une grande première aux Jeux et deux Français qualifiés pour la finale de jeudi. C'est la bonne nouvelle du jour. On y reviendra tout à l'heure dans moins de 10 minutes maintenant avec Nicolas Burnand. Puis enfin, notez que la star de la gymnastique mondiale, l'américaine Simone Biles, à l'arrêt depuis une semaine, rattrapée par de vieux démons et une lassitude générale, a réussi à récupérer tout de même une médaille de bronze, cette fois à la poutre, mais c'est quand même bien loin de ses ambitions et de son incroyable talent. Après, souvenez-vous, il y a 5 ans, ses 4 titres olympiques de Rio. Et puis un record du monde stratosphérique, cette fois aux 400 mètres et messieurs, le Norvégien Karsten Warholm devient le premier homme à passer sous la barre des 46 secondes. Il était flashé ce matin en 45-94. Et puis évidemment, on va revenir sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans 20 minutes maintenant avec On refait les jeux, présenté comme tous les soirs, comme le veut la tradition, par Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Je termine avec les sports et le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions de football et Monaco qui va jouer sa place parmi l'élite ce soir à Prague face au Sparta. Le coup d'envoi de la rencontre était fixé à 19h.
RTL Soir.
Christophe Pacaud.
18h10, c'est une centaine de personnes, pour la plupart des élus locaux, qui se sont rassemblés aujourd'hui à Revin, dans les Ardennes, pour réclamer des explications sur le retrait du soutien de l'État au projet de relocalisation des cycles Mercier, que Bercy a justifié par des soupçons d'irrégularité fiscale et douanière. On va tout détailler, on va tout vous décrypter avec Arnaud Touche. Bonsoir à vous, Arnaud.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et effectivement, le porteur du projet, il fait l'objet de plusieurs enquêtes. Il aurait notamment dissimulé l'origine des vélos importés. Par ailleurs, il est question de blanchiment et de fraude. C'est pourquoi l'État s'est rétracté et a finalement suspendu son soutien. Résultat, il n'y aura vraisemblablement pas d'usine Mercier dans les Ardennes. Pourtant, en mars dernier, Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, était même venue sur place et avait suscité un fort espoir. Espoir désormais douché aujourd'hui, déplore Bernard Dekens. Il est le président de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse.
Ça fait 4 fois qu'un ministre vient chez nous et ça fait 4 fois que c'est une désillusion qui est au bout.
Et désormais, c'est également la colère qui prime là-bas.
Mais l'argent ne compte pas pour nous. Ce qui compte, c'est qu'on nous dise on va vous trouver une entreprise de la même ampleur qui produise autant d'emplois. Les élus, la population se disaient que finalement, c'était pas fini pour l'industrie dans notre vallée. Quoi. Que la vallée de la Meuse, elle existe et qu'on ne soit pas la vallée des oubliés. Et là, les gens sont très en colère. On a quand même des moyens à Bercy pour pouvoir se renseigner si les gens que nous envoient sont recommandables ou pas. C'est ça qui est lamentable.
Et pour autant, l'État explique ce soir que l'argent qui était destiné au soutien de Mercier restera tout de même dédié au territoire.
Arnaud Touche, service économique et social RTL. Au Liban, un an après l'explosion gigantesque au port de Beyrouth, RTL est de retour sur place, un anniversaire qui sera commémoré demain, le 4 août, l'an dernier, des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium explosées dans le port de Beyrouth. La ville était balayée par un souffle extrêmement puissant. Au moins 200 personnes ont été tuées, 6500 blessées et des centaines de personnes portées disparues. Un an après, la reconstruction est lente, très lente. C'est vrai, on l'a constaté sur place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche encore un gouvernement. Puis la pénurie arrive. On a beaucoup de pénuries en matière de produits alimentaires de base, également en matière d'électricité ou encore de gazole et d'essence. Alice Moreno.
À la sortie de Tripoli, direction Beyrouth, l'autoroute est coupée par un groupe de chauffeurs de taxi en colère.
On ferme la route parce qu'on n'a pas de mazout, donc pas de diesel. Qu'on nous laisse quitter le pays plutôt que de rester coincé là.
Il laisse passer quelques automobilistes, puis ferme à nouveau la route. 10 km plus loin, une immense file de voitures s'étire sur la voie de droite. Des heures d'attente pour accéder à une pompe à essence.
Je suis là car mon gouvernement l'a voulu. On anticipe avant de venir chercher de l'essence. Il faut s'organiser avec le travail. Et on ne vient même pas pour le plein. Les stations ne remplissent pas intégralement les réservoirs.
La ruée vers l'or noir, de plus en plus rare et de plus en plus cher, explique le pompiste.
La quantité qu'on avait pour une semaine ne dure que 4 heures maintenant. Les 20 litres coûtent aujourd'hui 75 000 livres.
Il y a un an, c'était quoi ?
Il y a un an, c'était 20 000 livres.
De pénurie en pénurie, le manque d'essence met en péril le fonctionnement des générateurs électriques. L'électricité nécessaire au pompage de l'eau au Liban.
Le reportage d'Alice Moreno pour RTL au Liban, 18h14. Premier invité ce soir dans l'actualité, c'est Alain Aubanel qui nous rejoint. C'est le président du comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises et producteurs de lavande dans le Vercors. Bonsoir à vous, monsieur.
Bonsoir.
Et une filière qui s'alarme ce soir d'un projet de la Commission européenne qui conduira à terme à placer les huiles essentielles qu'on utilise pour beaucoup dans la catégorie des produits dangereux. C'est un coup dur pour votre filière.
C'est plus qu'un coup dur, c'est presque une mort annoncée. Parce que si la réglementation va jusqu'au bout, tous nos produits naturels et toutes nos huiles essentielles seront sur une liste noire qui rendra pratiquement impossible leur utilisation.
D'accord. Et les huiles essentielles, ce sont toutes les huiles essentielles ou c'est uniquement votre secteur qui est consacré à la lavande, au romarin, au thym ?
On a beaucoup focalisé sur la lavande, mais la totalité des huiles essentielles et la totalité des produits naturels seront soumis à cette réglementation.
D'accord. Et aujourd'hui, on peut rappeler que, par exemple, qu'est-ce qu'on utilise le plus ? Je sais pas, moi, c'est l'arbre à thé, ces choses comme ça ?
Ce qui est le plus utilisé, quand même, chez nous, c'est le lavandin et la lavande.
Lavandin et la lavande. Qu'est-ce qu'elles ont de dangereuses à votre avis, selon la Commission européenne en tout cas? Qu'est-ce qu'on vous reproche aujourd'hui?
Alors selon moi, il n'y a rien de dangereux. Selon la Commission européenne, elles contiennent des molécules qui sont classées potentiellement allergènes. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord parce que qu'est-ce que ça veut dire potentiellement? Ça veut dire qu'on a 1% des consommateurs qui sont potentiellement allergènes. C'est la même chose que pour les amandes et les arachides, et on ne va pas interdire l'utilisation des amandes et des arachides ou du gluten. Voilà, donc on a l'impression qu'il y a quand même deux poids et deux mesures.
C'est un commerce qui fonctionne très bien pour vous dans cette filière, en tout cas tous ces produits comme l'amande poivrée, je ne sais pas moi, la citronnelle ou même l'eucalyptus ?
Tout fonctionne très bien parce que depuis des années, le consommateur veut du naturel. Le naturel est produit par les agriculteurs. On fait d'énormes efforts pour avoir des produits le plus propres possible. On est quand même les leaders au niveau du bio, sur les méthodes alternatives. Et tout ce travail risque de partir en fumée.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une date concernant un arrêt éventuel ou une interdiction de produire ce genre d'huile essentielle ?
Pas vraiment, parce que normalement les textes devraient sortir en 2022 pour une application en 2025. Ouais. Donc on a quand même bon espoir que le bon sens reviendra et qu'on pourra modifier ces règlements.
Oui, pour éviter donc une conséquence dramatique pour votre filière. Merci à vous.
Tout à fait.
Alain Aubanel d'avoir été avec nous ce soir dans RTL Soir. Je rappelle que vous êtes le président du comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises et producteur également de lavande dans le Vercors. 18h17.
RTL Soir.
Christophe Paco.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés.
Paris plage. Ça fait rêver encore et toujours. Surtout avec cette belle météo d'automne, c'est vrai, comme le disait tout à l'heure Claire Delorme. Sur le sable, à un moment donné, nous sommes allés rendre une visite à tous ceux qui ont envie de se promener encore sur ces quais, sur ces rives parisiennes. Benjamin Boucriche, vous êtes donc à la recherche, hein, vous êtes parti à la recherche de vacanciers plutôt optimistes.
Les parasols sont complètement inutiles. Ici, au bord de la Seine, le ciel est tout gris avec un petit vent frais, ce qui oblige Marine à bien se couvrir sur sa chaise longue.
On est le 3 août, je suis en bottine, foulard et imperméable, donc il y a plus agréable. Mais bon, on fait avec et puis on s'adapte.
Mais tout le monde ne s'adapte pas aussi bien qu'elle. Lorraine habite dans le quartier et normalement, l'été, elle vient boire un petit verre de rosé au bord de l'eau. Mais en ce moment...
Il y a moins de rosé cette année et un peu plus de pulls, de baskets, moins de sandales. Et là, cette année, comme vous pouvez le voir, les chaises sont vides.
Les quelques guinguettes, elles aussi, sont fermées. Ambiance bien morne donc, mais il faut quand même garder le moral et positiver. C'est ce que fait Jean-Marc, un touriste belge.
Mais ça va encore. Hier, on a juste subi deux averses sur la journée. La première, on n'avait pas de parapluie, c'était embêtant. Puis après, on a été chargé de parapluie et le suite. Deux averses et aujourd'hui, aucune. Donc voilà, c'est très bien, je pense.
De la pluie hier, des nuages aujourd'hui. Sur cette lancée, peut-être que le soleil pointera le bout de son nez demain.
18h18, on verra tout cela avec notre spécialiste météo à 18h30. C'est Claire Delorme qui est avec nous ce soir.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec une première, en provenance de Tokyo et l'arrivée de l'escalade aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, avec Nicolas Burnand, on va se concentrer et se consacrer à cette nouvelle épreuve. Bonsoir à vous, Nicolas.
Bonsoir à tous.
Avec deux Français, deux frères en plus, hein, Mickaël et Bassam Awen, qui sont qualifiés pour la grande finale qui se disputera jeudi au Japon.
Oui, deux frangins pour une médaille. Bassal est né de 36 ans, tel un Yamakasi, gravit le mur de 15 mètres. Lors de la course de vitesse, bat son record personnel, c'est le numéro 1 de la discipline. Dans la dernière épreuve, le Français se blesse au bras. Rapidement examiné par un médecin, il est 7e mais qualifié. Son frère Mickaël, lui, survole l'épreuve du bloc le jour de ses 31 ans et prend la tête du classement général. Les deux Alsaciens ont construit leur carrière ensemble. Ils ont commencé l'escalade sur une planche de bois installée dans la cave de la maison familiale. Ils s'entraînent ensuite sur un mur de béton installé à côté de chez eux avant de s'inscrire en club et atteindre les sommets français. Les Maiwem ont une relation fusionnelle, partagent leur exploit sur les réseaux sociaux. Aux Jeux Olympiques à Tokyo, ils rêvent de laisser leur nom dans l'histoire de l'escalade.
On l'espère tous. Merci mille fois Nicolas Burnand, l'un de nos envoyés spéciaux à Tokyo pour ces Jeux Olympiques. Merci à vous. Dans un instant, une bonne nouvelle sur le front de l'épidémie. On l'espère tous. Cette épidémie de Covid, et ça baisse visiblement dans 28 départements, chiffre issu de Santé publique France. On va voir en quoi cela peut être, améliorer peut-être notre quotidien à toutes et à tous, parce que ça peut évidemment après repartir sur d'autres départements, sauf en Corse, on l'a vu, ça augmente. Dossier complet à venir, notre invité Benjamin Davido, juste après cette courte pause. Il est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
RTL Soir.
RTL Soir.
Christophe Paco.
Alors, vraie bonne nouvelle ou pas, on va en parler sans plus tarder avec notre invité Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
28 départements où on note une baisse, enfin, c'est à prendre avec des pincettes hein, ces chiffres, mais voilà, depuis 3 jours ça baisse. Est-ce que c'est un bon signe? Est-ce que c'est annonciateur peut-être voilà, d'un retour presque à la normale plutôt que prévu?
Écoutez, en tout cas, ce qui devrait se profiler dans les semaines qui viennent, c'est un scénario à l'anglaise, c'est-à-dire d'abord une diminution des contaminations en ville. Et ce qu'on espère, c'est limiter la vague hospitalière qui, pour le moment, commence à peine. Et la vraie question, c'est lorsqu'une vague commence, c'est quand est-ce qu'elle va s'arrêter, bien évidemment, parce que c'est ça qui est responsable, comme c'est le cas en Outre-mer, des mesures de restriction.
Oui, en Outre-mer, on le sait que la Guadeloupe, maintenant, va confiner. Il y a des rumeurs comme quoi, en Corse, où on a déclenché un plan blanc, c'est-à-dire un plan où on va privilégier évidemment l'acceptation de plusieurs malades de la Covid. C'est à contrario, il y a des départements où il y a beaucoup de vacanciers où par la force des choses, Benjamin Davido, là ça augmente, la tension est à son comble.
Oui, alors c'est très compliqué à interpréter ces chiffres parce que d'abord vous êtes positif par rapport à votre lieu de domiciliation et donc par rapport aux vacanciers c'est toujours compliqué à interpréter, mais c'est vrai que de toute façon c'est le brassage des populations qui va créer des contaminations ultérieures. Ce que j'espère c'est que le pic sera arrivé le plus tôt possible parce que comme vous l'avez dit, typiquement en Corse il y a un pic des hospitalisations très important et on se doute bien qu'entre l'Île-de-France et certains endroits dans le centre de la France vous n'avez pas la même capacité hospitalière, y compris avec l'afflux des vacanciers. Il ne faut pas qu'on tourne une situation où on met en difficulté les équipes médicales.
Oui, c'est ça. Il faut faire très attention. On sait qu'il y a une grève qui démarra peut-être demain dans certains départements, comme à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce qu'on se dit ce soir quand même ensemble que c'est une bonne nouvelle? On le répète. Mais quand on voit qu'en Corse, ça va être très compliqué ou comme même en Guadeloupe, est-ce qu'on peut se dire que d'ici la fin de l'été, on va revenir à une situation à peu près normale?
Ouais, c'est toujours difficile de se féliciter de la situation lorsqu'on n'a pas passé le pic épidémique. Je crois qu'il faut au-delà de raisonner individuellement, raisonner sur l'ensemble de la France. Et pour le moment en France, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une diminution de l'accélération des contaminations. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va encore une fois avec ce variant Delta probablement, mais si on a un mois de décalage, se retrouver dans un scénario comme en Angleterre où les contaminations ont chuté. Mais encore une fois, l'incertitude, c'est qu'on se retrouve pas ensuite avec des hospitalisations qui arriveraient début du mois de septembre et qui ensuite embrayerait avec l'automne. Et vous le savez, l'automne, c'est la grande inquiétude des médecins, comme on a connu l'année dernière une vague épidémique très importante.
Et là, il faudra passer par une troisième dose ?
Alors c'est une très bonne question, ça fait longtemps qu'on m'a posé cette question auquel je réponds souvent que pour le moment les données de science s'accordent pour dire que s'il y a une indication ça sera plutôt chez les gens très fragiles qui ont déjà une indication, c'est-à-dire les immunodéprimés normalement qui doivent l'avoir eu, et puis les plus de 75 ans. Et encore une fois, notre calendrier est tel en France et en Europe d'ailleurs, où je me félicite, on a dépassé le chiffre symbolique de 50% de personnes qui ont un schéma complet. Il faudra d'abord passer par la deuxième dose avant de se projeter vers une troisième dose, puisque peut-être qu'on aura des nouveaux vaccins à l'automne et il faut être prudent là-dessus.
Et si ça se passe bien, on oublie le pass sanitaire ?
Alors le pass sanitaire, je pense que de toute façon, il est voué à se diriger vers un passe vaccinal. Après, la question, c'est, encore une fois, où est-ce qu'on sera? Et c'est pas une singularité française, hein. Beaucoup de pays commencent à adopter ce type de passeport. Ils veulent se protéger les uns les autres en termes de pourcentage d'immunité, parce qu'évidemment, quand vous avez tout le monde vacciné, le passeport n'a plus de sens puisque ça devient la norme. Donc, c'est toujours un petit peu difficile. Je crois que la première étape aujourd'hui, et je l'espère, c'est d'arriver rapidement sur un pic de cette quatrième vague. Et si elle peut se limiter à des hospitalisations dans de rares départements, eh bien, écoutez, on sera tous ravis. Et ensuite, on se posera les questions de science de quand et comment faire cette troisième dose, parce que la question que vous soulevez est intéressante dans le sens où on oublie très souvent que la vaccination, son but, c'est préventif. C'est-à-dire, c'est de vacciner avant les vagues hospitalières. Typiquement, la grippe, on vous vaccine rarement après le 15 janvier parce que c'est trop tard. Et donc, il faut qu'on ait un peu cette pédagogie face à la vaccination du Covid.
Merci mille fois d'avoir été notre invité ce soir. Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Dans un instant, votre plateau télé du soir.
RTL Soir.
RTL Soir.
Christophe Pacaud.
Et bonsoir Laurent Marsic.
Bonsoir Christophe.
Il est grand temps de jeter un œil, un grand coup d'œil sur votre programme télé du soir. Sur votre plateau télé, qu'est-ce qu'on a amené de beau aujourd'hui? Tiens, une grande histoire, c'est bien. Des histoires de rencontres, j'adore. Et une très belle histoire d'amour, ça vous plaît, je sais. Bon, en gros, c'est une soirée histoire.
Exactement. Pour les fans de la grande histoire, France 2 propose ce soir un nouveau numéro de Si les murs pouvaient parler, présenté par Stéphane Bern. Ce soir, direction ce qui a été le premier musée au monde, mais aussi un lieu de luxure, une prison, un hôpital, et qui depuis 1795 abrite la chambre haute du Parlement français, autrement dit le Sénat. Pendant deux heures, les caméras de France 2 vont explorer le Sénat, palais d'une incroyable richesse, mais qui cache aussi bien des secrets, comme un endroit construit à 14 mètres de profondeur, occupant 330 mètres carrés, un abri construit pour les sénateurs en cas de guerre. Il a été construit à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne s'en serviront jamais, puisque les Allemands ne leur en laisseront même pas le temps. Ce sont eux qui vont utiliser et aménager à leur sauce cet endroit équipé avec les dernières technologies de l'époque. Ce qui est incroyable, c'est que depuis la Libération, rien n'a bougé dans cet endroit-là.
Une émission de l'abri, c'était de pouvoir communiquer vers l'extérieur pour voir ce qui se passait. La France avait créé plein de relais avec l'Élysée, avec les ministères, avec la Chambre des députés et également le commissariat. Alors les Français n'ont pas utilisé ce standard téléphonique. Ils n'ont pas eu le temps, puisque pendant l'occupation allemande, ce sont les Allemands qui ont bénéficié du relais qu'ils ont créé à l'époque, où on peut voir justement ces inscriptions allemandes. Du passage des Allemands, on peut voir un appareil respiratoire de conception allemande avec la notice explicative qui se trouve juste ici.
Voilà, si les murs du Sénat pouvaient parler ce soir sur France 2.
Allez, une histoire de rencontre maintenant.
Oui, sur France 5 avec la série qui cartonne en audience cet été, Nu et culotté, rebaptisée Confinu et culotté parce que tournée pendant le confinement. Oui. Le principe, deux garçons, Nancy Moons, partent nus d'un point A et doivent compter sur la générosité des habitants rencontrés en chemin pour arriver habillés au point B ce soir entre le Gers et les Landes, ça démarre pas super super.
Qu'est-ce que vous faites? Déjà à moitié habillé.
En fait, on est parti dans un voyage sans argent et sans vêtements.
Enfin, attendez, moi je suis pas les petits oiseaux.
La magie des gens du Sud-Ouest, ils sont rudes au départ, mais généreux à l'arrivée. Vous verrez finalement, Marie-Claude les rappelle. Et l'aventure des deux garçons va prendre une jolie tournure, avec même en prime des gendarmes qui leur apportent des chocolatines au petit-déj. Ce que les gens, les autres appellent le pain au chocolat. Belle, très belle leçon de vivre ensemble, nu et culotté, sur France 5.
Et on part quand, nous? C'est une question qu'on peut se poser. Allez, on termine avec une belle histoire.
Allez, belle histoire à revoir en famille sur la chaîne W9.
Après un mois de précipitations intenses, le niveau de la Seine a atteint une hauteur exceptionnelle.
Dans ce Paris inondé, une mystérieuse bête terrorise les habitants. Voici un monstre à Paris, film sorti en salle en 2011 avec les voix de Mathieu Chédid et Vanessa Paradis qui avaient aussi signé la chanson du film. 21h, W9.
J'adore cette chanson. C'est culotté et déculotté. Ah non, non. Bon, vous venez habiller demain ?
Oui, ben oui.
Merci
oui.
Laurent Marsic, il est tout pile 18h30.
RTL Soir.
Christophe Pacaud.
Le rappel des principaux titres de l'actualité. Face à la quatrième vague de Covid, l'Agence régionale de santé de Corse a activé cet après-midi le plan blanc régional afin d'ouvrir de nouvelles capacités d'hospitalisation. À Bastia notamment, le taux d'occupation dépasse désormais 79%. 3%. L'épidémie de Covid recule dans pas moins de 28 départements, à contrario, sur les trois derniers jours. C'est le cas notamment là où la hausse était la plus flagrante depuis le début juillet, dans les Pyrénées-Orientales, en Gironde, en Charente-Maritime ou encore dans les Landes et à Paris. Manifestation ce matin à Revin, dans les Ardennes, pour dénoncer l'abandon du projet de relocalisation des cycles Mercier. Le repreneur, visiblement, était trop fragile. On va en reparler dans un instant avec toute l'équipe du service des sports, avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol tout à l'heure. Dans Refait les Jeux, la 24e médaille pour la délégation tricolore aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'équipe de France, messieurs de vitesse, qui a donc sur piste, qui a décroché la médaille de bronze olympique en battant l'Australie dans le match de classement. Le volet, magnifique performance de nos Bleus qualifiés pour les demi-finales. C'est la première fois de leur histoire qu'ils accèdent à ce niveau de compétition après leur victoire face à la Pologne. Un match qui a duré jusqu'au bout de la nuit. Et puis du basket et du hand, là aussi, ça va très très bien. Ça passe direction, comme pour le volet, les demi-finales. En revanche, ça a craqué pour Alexandra Tavernier au lancer du marteau et à la perche pour Renaud Lavillenie. Dans moins d'une demi-heure maintenant, coup d'envoi du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions de football. Et pour la France, c'est Monaco, son représentant, qui attaque la compétition face au Spartak de Prague. La météo que l'on attend, je vous le dis pas, mais si, si, je vous le redis encore une fois, avec beaucoup d'impatience. On écoutait Claire Delorme, hein. Rebonsoir.
Oui, rebonsoir.
Les vacanciers heureux quand même de retrouver, non pas le sable, mais une petite plage à Paris. Et il y avait une question à la fin. Comme vous êtes notre spécialiste, je me retourne vers vous. On y croit un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout, retour du beau temps?
Plutôt pas du tout, puisqu'en effet, dès ce soir, une nouvelle perturbation qui cette fois-ci active va balayer la France, donc d'ouest en est. Ça va se traduire en première matinée de journée par des pluies passagèrement soutenues et orageuses, hein, du sud-ouest aux Alpes jusqu'aux plages de la Méditerranée. Et puis ensuite, ces pluies orageuses, elles vont se décaler vers la région PACA, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, ainsi que le sud de la Bourgogne-Franche-Comté. Les éclaircies vont en revanche réapparaître sur les rivages de la Méditerranée sous l'action du Mistral et de la Tramontane qui va souffler fort, 70 km/h. Et puis le ciel restera en revanche bien encombré dans le sud-ouest, ponctué d'averses. Des pluies faibles vont également circuler vers les Pays de la Loire et le centre-Val de Loire en matinée. Par contre, le temps, lui, sera beaucoup plus calme sur le tiers nord du pays, avec quand même quelques éclaircies qui vont pouvoir se développer, mais aussi, à contrario, quelques averses, avec encore le mercure bien frais pour la saison, seulement 11 à 16 degrés en matinée, de 19 à 23 degrés en général l'après-midi, avec quand même des pointes un petit peu plus élevées vers la Méditerranée. On peut espérer entre 26 et 30 degrés.
Donc l'été, c'est le 31 août. Moi, j'ai bien compris. Moi, c'est bon. On est tout bon. Merci, Claire Delorme. Tout à l'heure, à 19h15, à la fin du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Vous reconnaissez la musique, on va refaire les jeux. C'est du pur bonheur, comme tous les soirs, comme le veut la tradition. Avec le duo en or, Marie Portolano, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Michel
Rascol. Bonsoir, Christophe.
24 médailles, c'est ça?
Exactement.
C'est bien.
C'est 80. Un peu moins qu'Ario. C'est une ou deux de moins qu'Ario,
ouais,
au même stade.
On est loin des 80.
On est loin des 80.
De Laura Flessel en 2024.
Exactement.
Ça serait bien.
On aurait du mal.
Le programme du soir.
Le programme du soir avec les champions olympiques de fleuret par équipe qui seront avec nous dans un instant. Il y a plein de choses à vous raconter. Vous allez voir, ça va être une belle émission.
J'adore. Et bravo avec Teddy Riner hier. C'était un grand moment tous les deux.
Merci.
On a adoré d'ailleurs le... Non, c'était un très grand moment. On refait les jeux comme tous les soirs jusqu'à 19h.